De la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait ?
Est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Guillaume Ploquin à la réalisation pour nous poser de drôles de questions sur le Big Bang, l'explosion originelle sur laquelle se fonde toute notre cosmologie moderne. Pourquoi le Big Bang n'est pas une théorie comme les autres ? Peut-on dire qu'il s'agit du meilleur scénario disponible sur nos origines, d'un modèle correspondant à nos observations actuelles, de l'ultime frontière de nos connaissances et donc de notre ignorance ? Peut-on remettre le Big Bang en question ? Voilà ce que nous allons nous demander avec nos invités. L'astrophysicien Jean-Marc Bonnet-Bideau et Dominique Le Glu, directrice de la rédaction de Science et Avenir, autour de la question « Pourquoi le Big Bang ?» Bienvenue. Bonjour Dominique Le Glu.
Bonjour.
Bonjour Jean-Marc Bonnet-Bideau.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour remettre en question le Big Bang, carrément. Alors Jean-Marc Bonnet-Bideau, vous êtes astrophysicien au CEA et consultant scientifique pour le magazine Ciel et Espace. Dominique Le Glu, vous êtes journaliste scientifique, physicienne de formation et aujourd'hui directrice de la rédaction du mensuel Science et Avenir. Alors le Big Bang n'est pas une théorie comme les autres, c'est vous qui le dites et c'est le titre du livre que vous venez de publier ensemble avec également l'astronome François Xavier Désert et le physicien Gilbert Reinisch aux éditions La Ville Brûle. Pourquoi le Big Bang n'est pas une théorie comme les autres ? C'est ce que nous allons tenter de comprendre au cours de cette émission. Mais pour s'entendre déjà sur les mots, avant même de définir ce que c'est, est-ce qu'on peut dire que le Big Bang, c'est une théorie scientifique ou un scénario hypothétique ? Jean-Marc,
oui, c'est un scénario. Avant tout, c'est un scénario. C'est-à-dire la définition d'une théorie scientifique est très stricte. On part d'une hypothèse, on fait des développements et on arrive à des conclusions et des prédictions. Le meilleur exemple, c'est la relativité générale, où il y a effectivement, on part des équations de Newton et puis ensuite on impose que la vitesse de la lumière soit limitée et on arrive à ces équations donc qu'a développé Einstein et on fait des prédictions. On dit voilà, le Mercure doit être à telle place à telle heure. La lumière doit être déviée par le soleil. Et on vérifie. Et une fois qu'on a vérifié, la théorie est établie. Le Big Bang est un scénario. C'est une façon de remonter le film de l'histoire de l'univers à l'envers, mais qui ne présuppose pas des conditions initiales et qui ne fait guère de prédictions sur l'état actuel. C'est juste une façon de remonter le film à l'envers.
Un scénario, une hypothèse qui, en tout cas, Dominique Le Glu, rentrait dans le langage courant, même si au fond, on ne sait pas exactement ce que ça signifie. C'est rentré comme une évidence, comme un fait avéré, alors que c'est évidemment un peu plus complexe que ça.
Ben oui, d'ailleurs, malgré ce que vient de dire Jean-Marc, voyez que le livre a repris le mot de théorie. Une théorie...
Pas comme les autres, pas comme mais quand les même autres. Une théorie.
Mais quand même, pour le langage courant, c'est le mot de théorie qui est sorti. Au passage, justement, pour le très grand public, quand on dit théorie, ça ne veut pas dire la même chose qu'en science. Quand on dit mais c'est juste une théorie, ça veut dire c'est très hypothétique, ce sont des élucubrations. Alors même qu'à l'intérieur du système scientifique, théorie, c'est très précis.
Autour de la question « Pourquoi le Big Bang ?», première piste d'exploration sonore avec le mix de Guillaume.
Je cite toujours cet exemple de cet ermite chrétien qui court dans le désert au 4e siècle de notre ère, tout seul et qui crie très très fort « J'ai une réponse !» Qui a une question ?
Avant le Big Bang, y avait-il quelque chose ?
L'univers à une origine.
Donc c'est les premiers instants de l'univers qui ont commencé très chaud, très dense, très différent de ce qu'on voit à l'heure actuelle dans l'univers.
Au début régnaient les ténèbres, et soudain le Big Bang a donné naissance à des éléments dont l'expansion est infinie. Le temps, la matière et l'espace.
Et c'est une hypothèse qui est nécessaire pour expliquer un grand nombre d'observations.
Edwin Hubble n'a jamais reçu de son vivant la reconnaissance à laquelle il aspirait tant pour avoir découvert l'immensité de l'univers. Aujourd'hui, le télescope spatial qui porte son nom voit à des milliards d'années-lumière de la Terre et remonte dans le temps vers l'origine de la matière.
La distance est un vain mot. La distance
n'existe pas.
Ah, pour moi, il n'y a pas de doute, c'est le LHC, c'est-à-dire c'est la seule machine qui soit capable de répondre aux questions que nous nous posons.
La distance n'existe pas, c'est formidable.
Qui veut réagir à ce que vous venez d'entendre? Dominique Leglu, oui, je sens.
Ben, écoutez, déjà, l'utilisation du mot origine, qui fait débat, un certain nombre de scientifiques n'aiment pas ce mot.
C'est-à-dire que quand on parle du Big Bang, quoi, l'instant zéro de nos origines, non, il ne s'agit pas de nos origines. On n'a pas le droit de dire ça quand on est scientifique, pour certains scientifiques.
Ah ben, vous avez même utilisé deux mots interdits. L'instant zéro.
L'instant zéro non plus, ce n'est pas bon.
Ah ben, l'instant zéro, comme vous disent un certain nombre de physiciens, au-delà du temps de Planck, hein, 10 puissance moins 43 secondes, oui. Hein, c'est-à-dire 0,42 zéros et puis 1.
Avant nous.
Avant, donc vous voyez, c'est tout petit. Avant cela, vous ne pouvez rien dire. Donc vous ne pouvez même pas parler de l'instant zéro.
Bah alors de quoi peut-on parler quand on parle du Big Bang? Donnez-moi une définition. Qu'est-ce qu'on a le droit de
alors,
dire?
Alors encore une fois, c'est un scénario à l'envers. C'est-à-dire qu'effectivement, on va jusqu'aux limites de nos connaissances. Tout est basé sur l'expansion. En fait, il faut partir de là. L'univers est en expansion, un fait effectivement qui a été avéré dès les années 1929. Et cette expansion, finalement, on imagine que on peut la remonter à l'envers. Dans le passé, l'univers était moins dilaté, et on le remonte à l'envers jusqu'à un moment où il est très concentré. Alors, ce qui est un peu troublant, c'est que dans le mot Big Bang, au passage, il a été inventé de façon un peu par dérision, hein, par quelqu'un qui était opposé à cette théorie-là, qui était un astrophysicien anglais qui s'appelait Fred Hoyle.
Et qui a dit Big Bang parce que lui n'était pas d'accord avec...
Il a voulu donner un terme légèrement péjoratif à une théorie qui n'était pas la sienne. D'ailleurs, il l'a fait à la radio, à la BBC, en mars 1949. Donc, c'était intéressant que ce mot ait été créé à la radio. Et en fait, donc, c'était péjoratif dans son esprit. Et les deux mots sont relativement assez faux, même s'ils ont eu une très très belle carrière. Big, certainement, ça concerne l'univers en entier. Mais Bang, ça n'a jamais fait aucun bruit, le Big Bang, évidemment.
Donc, c'est pas du tout une explosion originelle. Là,
non,
du tout faux.
Et c'est très,
ça, hein.
C'est ça. C'est exactement ça qui est resté dans la mémoire collective, on pourrait dire, alors que c'est scientifiquement absolument faux. Ce qu'on fait dans la science, c'est qu'on remonte le temps de cette expansion jusqu'à un moment où l'univers est tellement dense que nos connaissances sont incapables de le décrire. D'où le fait qu'on ne peut pas aller au-delà de ce temps fameux dont parlait Dominique Leglu, le temps de Planck.
Dominique, vous vouliez ajouter quelque chose?
Ben, je voulais rappeler le fameux bang. Effectivement, il ne peut pas y avoir de bang, parce que pour qu'il y ait du bang, il faut justement qu'il y ait de la matière. Vous savez bien que là où il n'y a pas de matière, dans l'espace...
Il n'y a pas de bruit.
Il n'y a pas de bruit. Donc ça ne peut pas faire bang. Ouais.
Donc, en fait, le Big Bang, quand on l'entend, effectivement, c'est un scénario et ça n'a pas de sens. Comment est-ce qu'on pourrait là, comme ça, trouver même un mot qui dise quelque chose et qui soit un peu plus juste que le Big Bang?
On pourrait dire le scénario de l'expansion de l'univers. Parce qu'effectivement, en remontant le temps, on vérifie un certain nombre de choses. Par exemple, que l'univers devrait être plus dense dans le passé. Alors, on essaye de le prouver à l'heure actuelle. Et on peut le remonter encore un peu plus au moment où se sont formés les premiers atomes de matière dont on peut calculer effectivement la proportion et qu'on vérifie ensuite par les observations. Donc en fait, ce scénario...
Donc on vérifie ensuite par les observations,
exactement.
On remonte le temps, on fait des calculs.
Et on vérifie après, il y a autour de nous le résultat probable de ce qu'a été cette expansion depuis le début. Mais un début qui n'est sans origine, qui est jusqu'où nous connaissons.
Un début sans origine. Et donc oui. Au fond, c'est... On remonte jusqu'à notre ignorance, début
voilà,
de l'expansion, jusqu'au moment où on ne peut plus voir, jusqu'au moment où on ne sait plus.
Alors, plus voir de façon évidente, on est déjà limité par notre vision, ce que nous appelons l'horizon de la cosmologie, c'est-à-dire de la lumière, mais un certain temps à nous parvenir, donc on n'a pas encore la connaissance de l'ensemble de l'univers. Et ensuite, la limite de nos connaissances de la physique, puisque quand l'univers devient très dense, on n'a aucun moyen sur Terre à l'heure actuelle de connaître le comportement de la matière quand elle est très dense. Et c'est pour ça que le petit message d'Étienne Klein sur le LHC,
l'accélérateur de particules,
intervient, puisque effectivement, dans ces conditions très particulières, mais dans des proportions qui sont loin de celles qui sont atteintes dans l'espace, on espère quand même atteindre un certain nombre de ces conditions de densité qui ont pu à un certain moment donné exister dans l'univers.
Donc les instruments de la physique nous permettent quand même de remonter le temps jusqu'à ce moment-là où on ne sait plus, où on ne voit plus...
J'aimerais rappeler que l'instrument de la physique très important, c'est celui qu'a employé Edwin Hubble, qui est cité dans l'extrait que vous avez passé, parce que c'est lui qui a vu que toutes les galaxies s'éloigner les unes des autres. Et il s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est lui qui a donné par l'observation l'idée qu'il y avait une expansion. Il faut se souvenir que auparavant, l'image que l'on avait de l'univers, c'était un univers statique. Or, brusquement, il commençait à s'étendre, s'expandre, et il acquérait du même coup une histoire.
RFI.
T'es rien, juste une poussière dans un système solaire, une chose mystérieuse. C'est rien, on est tous un peu flous, pas sûrs de nous du tout. Dans la nébuleuse. Mais ce soir, en regardant les étoiles, j'ai vu dans le ciel quelque chose qui brille, brille, brille. Oh, la belle étoile, quelques étoiles filantes. C'est qu'un jour je pourrais y croire. Ça me sidère, ce désir qui monte en moi. Oh, la belle étoile, quelques étoiles filantes. Toi, la bonne étoile, autour de toutes ces figurantes.
La bonne étoile de M sur RFI autour de la question pourquoi le Big Bang. Nous sommes en compagnie de l'astrophysicien Jean-Marc Bonnet-Bidot et de Dominique Le Glu, directrice de la rédaction de Science et Avenir. Tous deux viennent de publier Le Big Bang n'est pas une théorie comme les autres et viennent et vont encore nous en donner la preuve tout de suite en répondant à une nouvelle question, celle d'une passionnée d'astronomie, notre stagiaire Céline Lozen. Écoutez, c'est pour vous.
Bonjour, j'ai entendu dire que la théorie du Big Bang est de plus en plus contestée par les cosmologistes et je me demandais s'il y avait des preuves qui pourraient réfuter cette théorie, comme par exemple si on pouvait trouver de l'antimatière ou bien si on trouvait des objets dans l'univers qui soient plus vieux que l'âge prétendu de l'univers. Est-ce que ça remettrait en cause cette théorie du Big Bang ?
Votre réponse, Jean-Marc Bonnet.
Ah oui, c'est très intéressant. D'ailleurs, le sujet du livre et pourquoi il a été publié maintenant était justement basé sur des tas de faits qui rendent ce scénario du Big Bang relativement mis en question à l'heure actuelle.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les astrophysiciens, l'astrophysique en général, les théories de l'astrophysique et les observations remettent en cause
Alors, rien ne remet en cause par une observation particulière. Mais ce qui questionne le scénario en lui-même, c'est tout ce qu'on a dû lui ajouter pour qu'il fonctionne encore. On en parlera peut-être par la suite. Donc, notamment ce qu'on a appelé la matière et l'énergie noire, qui sont
c'est-à-dire
des ingrédients...
C'est-à-dire que pour que ce scénario qu'on est en train de construire fonctionne, on a dû rajouter des éléments, matière noire, énergie noire...
Voilà, qui sont totalement inconnus de la physique, physique de nos laboratoires. De la physique tout court. C'est-à-dire qu'il est quand même un petit peu extravagant, on pourrait dire, qu'on fasse une histoire de l'univers avec des choses totalement inconnues, dans des proportions pour l'univers qui sont de plus de 95%.
C'est-à-dire que 95%
de l'univers nous est totalement inconnu, totalement.
Si on, pour
que
construire
le Big Bang puisse
scénario.
Fonctionner. C'est tout simplement ça. Donc, si vous voulez, ça a déclenché effectivement un certain nombre de réflexions dont on aura peut-être l'occasion de parler. Et pour juste répondre effectivement à la question qui était posée, oui, on cherche bien évidemment quand même par une observation donnée. Par exemple, on citait l'antimatière. Si un jour on trouvait un atome de carbone d'antimatière, ce serait la fin de cette théorie du Big Bang. Parce qu'effectivement, cet atome de carbone ne pourrait pas s'être formé dans le début de l'univers tel qu'est raconté par le Big Bang. Donc voilà, par exemple, des observations, celles qu'on citait aussi, des objets qui auraient un âge plus élevé que l'univers, ce qui serait une contradiction évidemment évidente. Donc ces choses-là sont recherchées à l'heure actuelle, et la défense qui est donnée pour le Seigneur du Big Bang, c'est on n'a encore pas trouvé quelque chose qui l'invalide directement par l'observation.
Mais en même temps, moi j'ai du mal à comprendre comment on peut chercher des choses qu'on ne connaît pas.
Alors c'est une autre chose après, c'est que pour qu'il fonctionne, on est obligé de mettre toutes ces inconnues, et il faudra bien qu'un jour elles apparaissent dans nos instruments de mesure, dans nos équations, par d'autres choses que des élucubrations. Donc en fait,
voilà pourquoi voilà. Vous parlez de scénario. Hein, on est en train d'essayer de construire Dominique Leglu.
Je ne sais pas si Jean-Marc Bonnet-Bidot sera d'accord, mais ça me fait penser toujours irrésistiblement à ces périodes où on avait des épicycles.
C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que des épicycles?
Ben, quand on voulait décrire le système solaire, on partait des cercles. Or, eh bien, après Copernic et Kepler, on a bien compris que ce n'était pas des cercles, que c'était des ellipses que décrivaient les planètes autour du Soleil.
Donc, ce que vous dites, Dominique, c'est que pour l'esprit humain, il faut se faire une forme ou quelque chose, et puis après, c'est pas ça. On découvre que c'est pas ça.
Oui, mais comme on partait d'une forme, allez. Idéal. Il fallait rajouter les épicycles, c'était rajouter d'autres trajectoires de façon à traduire ce que l'observation donnait. Donc, ce dont parlait Jean-Marc, c'est-à-dire matière noire, énergie noire, pour moi, c'est ça les épicycles. C'est on les rajoute parce que l'hypothèse de départ, eh ben, elle fonctionne pas totalement. Et alors, du coup. La question qui se pose, et peut-être que là je vais aller un peu loin, mais moi je suis pas astrophysicienne, hein, alors
physicienne de formation mais journaliste aujourd'hui.
Oui, voilà, journaliste. Et donc je me pose la question, est-ce que finalement à un moment très profondément en physique et en astrophysique, on va se dire, mais attendez, il va falloir remettre des fondations, remettre totalement d'autres bases, repartir. Faire peut-être éclater le Big Bang, éclater le scénario et repartir totalement sur d'autres bases.
Parce que si on s'accroche comme ça à ce scénario-là et qu'on dit il y a des matières noires, énergie noire, ça va pas fonctionner, on va être bloqué. Il faudrait changer complètement de perspective.
Rappelez-vous, Jean-Marc se souviendra du nom dont je ne me souviens pas à l'instant même de ce physicien. Est-ce que c'était Kelvin? Non. Qui disait à la fin du 19e siècle que bon, on avait tout compris en physique. Et puis là-dessus, pof, Einstein, Poincaré, Hubble et toute la physique du XXe siècle qui montre que ben, on avait compris déjà beaucoup de choses, mais on avait à en comprendre encore plus. Et peut-être qu'on en est là.
C'est-à-dire qu'on en est là. Une période, Jean-Marc Bonnet-Bidot, où il faut, où on est effectivement coincé, mais c'est un peu normal parce qu'il faut tout envoyer valdinguer pour découvrir autre chose.
Moi personnellement, j'en suis vraiment vraiment persuadé. Et l'histoire effectivement est assez cruelle puisque en fait, ce qui manque dans la science moderne, c'est le recul de l'histoire des sciences, tout bêtement. Et beaucoup de nos collègues ont très peu de notions de ce qui s'est passé avant eux et qui nous racontent
l'histoire. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, la science.
Bien sûr. Ce que cite Dominique Leglu est très intéressant. Deux étapes très importantes de l'astrophysique, en fait. Finalement, Ptolémée, qui est un grec, ne raisonne qu'avec des cercles. Il faut que tout soit fait avec des cercles. Donc, il tombe sur une impasse parce qu'en fait, les orbites des planètes sont des ellipses. Il est obligé, pour reconstituer une pseudo-ellipse, d'ajouter des cercles et des cercles et des cercles. Il aurait mieux fait de dire ben, j'abandonne le cercle tout de suite. On a passé 2000 ans pour se débarrasser de cette idée-là. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, une espèce de dogme comme ça de cercle nous a imposé de rester dans l'idée que évidemment tout devait être décrit par des cercles.
Et aujourd'hui, on serait dans un dogme du Big Bang.
Je pense que oui, puisque finalement, on s'accroche à une espèce d'histoire qui, certes, était belle. En plus, se rapprochait un tout petit peu d'histoire mythologique, d'histoire religieuse. Donc, c'est pour ça, sans doute, qu'il y a une espèce d'intérêt pour cette histoire-là. Mais, en fait, on s'y accroche trop longtemps et il me semble qu'on a négliger d'autres hypothèses.
Autour de la question, pourquoi le Big Bang? On n'a pas fini. Heureusement, on va faire une petite pause sur Terre avec le flash d'info et on se retrouve dans 3 minutes si vous le voulez bien, pour continuer de refaire le monde. Alors, je dirais pas nos origines, mais le Big Bang, l'astrophysique et puis l'univers tout entier. Allez, carrément. À tout de suite.